France Inter. Il y a le concerto de Mozart pour clarinette et orchestre que mes parents m'emmènent écouter en famille un dimanche après-midi à l'Opéra Municipal. Françoise, qui joue dans l'orchestre, a donné des invitations à toute la classe. Le souvenir que je garde de la première partie du concert est plutôt désagréable. Je ne me souviens pas du programme, mais c'est long, trop long, et j'ai les jambes qui me démangent. Pour aller à l'opéra, mes parents m'ont obligé à mettre une robe et des collants qui grattent. Pour couronner le tout, le velours rêche des fauteuils me pique les cuisses. Ça me gratte, ça m'irrite atrocement. Heureusement, à l'entracte, mes parents nous envoient, ma sœur et moi, acheter un Eskimo. Chez nous, il n'y a pas de congélateur, alors c'est la fête. J'en profite pour retirer mon collant dans les toilettes avant de retourner m'asseoir pour la seconde partie du concert. Le rideau se lève, l'orchestre est prêt, le chef arrive sous les applaudissements, puis le soliste, un clarinettiste, fait son entrée. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau. Le son de cet instrument est doux, c'est merveilleux. Je glisse dans une sensation de bien-être, j'oublie mes démangeaisons, mes jambes ne me piquent plus, le velouté de la clarinette est une caresse. Je sens des larmes rouler sur mes joues, je ne cherche pas à les arrêter, elles me font du bien. Elle me lave. Je suis apaisée. J'ai envie de sucer mon pouce qui retrouve sa place dans ma bouche. Je suis bien.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Bonsoir, bienvenue Morgane Raoult.
Bonsoir Julia.
Ça vous fait toujours le même effet, la clarinette, ce que je viens de lire, là, qui sont vos mots, c'est votre texte.
Oui, oui, ça me fait toujours le même effet. Et, oui, j'ai une réaction immédiate quand j'entends de la clarinette.
C'est vous qu'on entend jouer là sur scène dans votre spectacle Je ne souffle pas, je chante, et c'est prodigieux parce que vous auriez dû ne plus jamais en jouer. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, parce que à l'âge de 25 ans, alors que je faisais de la clarinette depuis l'âge de 7 ans et que on fait gaffe à ses doigts, on fait gaffe à sa bouche, à ses dents, mais je savais pas, j'avais un problème au poumon et je ne le savais pas. Il y a 25 ans, alors que je suis en train de réaliser mon rêve d'être clarinettiste, j'ai les poumons qui lâchent. J'ai un premier pneumothorax.
Et il y en aura même un second. Vous allez nous raconter. Ce soir, Je ne souffle pas, je chante, c'est aussi le titre de votre récit aux éditions Michalon. Récit de votre histoire avec la clarinette, histoire d'un amour, histoire d'un sauvetage aussi. Vous la découvrez à 6 ans, vous en avez aujourd'hui 53. Elle est longue cette histoire, mais qu'est-ce que vous en diriez ? Vous, quels sont les qualificatifs qui vous viennent quand on vous parle de vous et de la clarinette ?
Une histoire de vie, parce que je pense que la clarinette représente un élan vital pour moi. Et toute ma vie tourne autour de la clarinette. Depuis le jour où j'en ai entendu un extrait, justement, vous venez de le lire, à l'âge de 6 ans, depuis le jour où j'ai entendu cet instrument jusqu'à aujourd'hui, toute ma vie, tout mon parcours de vie a été autour de cet instrument.
Pour vous décrire, vous diriez quoi ? Je vous tends ce miroir, Morgane Raoult. Vous le connaissez, vous écoutez l'émission, oui. Vous êtes une fidèle, donc cette fois c'est à vous.
Oui, alors c'est pas ce qu'il y a de plus agréable en fait, de se regarder devant témoin, parce qu'on se regarde tous, j'espère, en tout cas dans la salle de bain. Ce que je vois, c'est je vois que je souris, ça veut dire que je suis heureuse d'être là, et je vois qu'en fait, si je me regarde, je me reconnais bien.
Ouais.
Et ça, c'est.
Qu'est-ce
c'est
que vous reconnaissez ?
Alors, je reconnais. Déjà, je vois. Pendant des années, j'ai essayé de voir un peu de mes parents en moi. Mmh. Et maintenant que j'ai des enfants, à chaque fois que je me vois, en fait, je vois les yeux de mon fils, je vois le sourire de ma fille, je vois l'ensemble de ma vie, quoi.
Parce que... Donc, vous reconnaître, c'est reconnaître les autres, ceux qui vous entourent.
Oui, en tout cas. Ce que j'aime et ce qui m'aime et qui m'ont faite, quoi.
Alors sur scène, vous êtes habillée tout en noir avec des vêtements assez amples qui ne dessinent pas votre corps, en tout cas. Pourquoi ? Quelle est votre rapport, quel rapport vous entretenez avec votre corps, avec votre apparence, avec votre féminité?
Alors, sur scène, je suis en noir, parce qu'on a voulu reprendre les codes de la musique classique. Mmh. Mais dans la vie, je suis rarement en noir.
Et d'ailleurs, vous ne l'êtes pas, vous avez une très jolie blouse colorée,
oui,
à motif.
J'aime plutôt les couleurs. Mmh. Je trouve que la vie va avec les couleurs. Et c'est vrai qu'en général, je ne porte pas des habits très cintrés. Je déteste, en fait, voir... susciter du désir dans le regard des, surtout des hommes.
Pourquoi? Parce que ça vous coince?
Oui, parce que je trouve que du coup, on ne s'intéresse pas à qui je suis, à ce que je dis. Et je trouve que c'est mieux de me découvrir. Voilà. Et puis aussi, attends, pour être très honnête, avec l'âge, je suis un peu moins bien gaulée, donc quand je dis des habits qui me servent, moi je vois un petit peu les formes qui se sont un petit peu amplifiées, quoi.
Et en même temps, vous avez cette longue et belle chevelure blonde, vous êtes maquillée, vous êtes bijoutée aussi. Ça raconte un rapport fluide à votre féminin. Est-ce que ça a toujours été le cas?
Alors, je suis très heureuse d'être une femme. Je suis très sensible à la beauté des femmes et à la féminité des autres femmes, en tout cas. Et mais moi, je n'aime pas me déguiser. J'ai jamais
jouer
aimé
la femme,
ça.
Performer la femme.
Voilà.
C'est pas votre
et
truc.
Donc, comme je me sens bien en, moi, il ne faut pas que je sois entravée dans mes mouvements. Donc, je me sens bien en pantalon. Je me sens surtout bien en basket. Et alors, c'est ça mon souci. Je veux bien mettre des robes si on me laisse mettre des baskets, quoi.
Avec vous, tout a commencé le 24 juin 1971, dans le plus beau des quartiers, dites-vous, la cité HLM de Clermont-Ferrand. C'est là que va démarrer notre balade en marge ce soir. Vous êtes sur France Inter. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Je...
Laurent Barden, Tigre de Douce et Jeanne Adède, meilleur, oui, le meilleur pour nous accompagner en marche ce soir, ce drôle d'endroit où on s'est tellement transformé, ce que la vie présente de plus laid. Morgane Raoult, Je ne souffle pas, je chante, c'est le titre de votre récit. Vous êtes clarinettiste, autrice et avec le doux fantôme d'Anne Sylvestre sur nos épaules, vous êtes notre invitée.
France Inter, En marge.
Josette qui n'en fait qu'à sa tête. De son papa, elle a les yeux verts. De sa maman, le nez en l'air. Mais savez-vous, elle ne ressemble à personne malgré tout.
On est quelque part en Auvergne, Morgane Raoult. Où est-ce qu'on pourrait être ?
Oh bah là, là on est, c'est sûr qu'on est en Auvergne, on est dans ma chambre d'enfant.
Il y a cette maison de vacances, je crois,
oui,
où vous vous retrouviez.
Oui.
Racontez-nous, les étés, les vacances, c'était comment là-bas ?
Alors, en Auvergne, une petite ferme qui n'avait pas été habitée depuis une cinquantaine d'années, dans un petit village auvergnat, je vais le citer, je les aime trop, c'est La Ribère, à Saint-Babel. Et donc, une maison où avaient vécu des cochons, des vaches, des lapins. Et nous, on arrive, petite famille de citadins, et on a le droit de s'installer dedans et petit à petit de la retaper. Mes parents, je me souviens, ils l'a loué à l'oncle d'une voisine. C'était quelque chose comme 1000 francs l'année. Et c'était vraiment génial. Et donc, je découvre la nature, la simplicité, les choses simples, quoi. Pour avoir de l'eau chaude, fallait qu'on fasse chauffer des bouteilles ou des jerricanes d'eau qu'on laissait au soleil. Et le soir, on se lavait avec l'eau tiède qu'avait chauffée naturellement.
Du matin au soir, on a Anne Sylvestre en fond sonore, ouais, hein, comme pas mal d'enfants des années 70. Non, les plus chanceux, peut-être. Mmh. C'est de la graine de féminisme plantée assez tôt, ça, non ?
Mais oui, parce que Anne Sylvestre... Bon, non seulement elle écrit merveilleusement bien, mais dans La Petite Josette, par exemple, la répartition des tâches était vachement bien faite. Le père et la mère se répartissaient le ménage. Je crois que le papa il s'occupait du haut des étagères parce qu'il était plus grand. La maman le milieu. Josette elle faisait le bas de l'étagère et le père il repassait notamment les jupes de sa femme.
Chez vous, ça se passait comme ça aussi ?
Un peu moins comme ça. C'est-à-dire, ouais, j'ai un père qui est tout sauf macho, ça c'est sûr, mais quand même, c'était quand même ma mère qui était plus à s'occuper de la maison.
Alors lui, il est ingénieur à l'INSEE, Bernard,
Chez Michelin.
Chez Michelin, pardon. Ouais. Pardon, chez Michelin. Votre mère, Claude, elle s'occupe de vous trois et ouais, elle fait de temps en temps des petits boulots. On est sur des figures assez classiques du féminin et du masculin, même pour l'époque.
En apparence, oui, mais non, parce que d'abord, mon père, réellement, il faisait pas de différence entre élever des filles ou des garçons.
Vous êtes deux filles et un garçon.
On est deux filles et un garçon. Et ma mère, elle, c'était une féministe, mais de dingue, sauf qu'elle le savait pas. Elle savait tout faire. Tout ce que c'est faire un homme, elle savait le faire. Elle sait encore le faire, pardon, parce qu'ils sont encore là, mes parents. Et surtout, elle nous a laissé entendre avec ma sœur que le monde nous appartenait à nous aussi, quoi.
Votre mère tapisse votre chambre de papier peint tout blanc pour que vous puissiez dessiner avec votre sœur directement dessus. Une certaine idée de la liberté, ouais, de la fantaisie sans doute. L'appartement familial sent bon le muguet, ça c'est son parfum. Des jeux de gosses résonnent dans le couloir et l'enfance a le goût du bonbon. Vous vivez tous les cinq dans le plus bel endroit du monde, dites-vous. Mais encore.
Eh bien, je vis dans une cité HLM, à Clermont-Ferrand, où il y a une mixité sociale de dingue, parce que non seulement il y a des jeunes profs, mais mon père venait juste de finir ses études, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de familles immigrées qui arrivent d'un peu partout. Donc moi, à l'école, je partage l'école avec Babacar, avec Soraya, avec Kamel, avec bien sûr aussi, on a eu des Laotiens, des Cambodgiens qui sont arrivés, Nangouli. je rêverais de retrouver Nangouli. Elle était laotienne, elle arrivait. C'était des, ce qu'on disait, on appelait ça des boat people.
Oui.
Il y avait aussi beaucoup de Portugais. Beaucoup... Et donc, en fait, dans notre école, il y avait un vivre ensemble. Mais je ne savais même pas que ça existait, parce que c'était la vraie vie. Mmh. Et mes parents, chez mes parents, il n'y avait pas une graine de racisme, et à l'école non plus. Et je ne savais pas, jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne savais même pas que ça existait de mettre des gens dans des tiroirs. Voilà, jusqu'à 10 ans à peu près.
À la maison, c'est l'arche de Noël, il y a Toupie, la chienne que vous avez recueillie, Titi et Jojo, les cochons d'Inde en liberté, et puis Mounette, la chatte, sauvée de la noyade. Il y a même une pie apprivoisée. Tout ce petit monde, le mercredi, regarde Récré à deux, et tous les soirs, L'île aux enfants, le mardi soir, vous enchaînez avec un film, parce qu'il n'y a pas d'école le mercredi. Et alors là, souvenir mémorable de fou rire avec votre grande sœur Caroline, devant Louis de Funès. Quant à la musique, elle fait irruption, doucement, sûrement, dans votre vie, avec... Françoise, d'abord, entre autres, votre professeur de musique, qui vous emmène un jour entendre Mozart et puis ce morceau de clarinette. Quelqu'un joue de la musique chez vous, dans votre famille ?
Non.
Personne ?
Non, personne joue de la musique. Mes parents aiment la musique. Mon père, il a une guitare et il joue 3 accords et toujours la même chanson.
Mais pas plus que ça.
Non.
Vous, avant ce concert, vous ne jouez pas, mais vous sifflez.
Non,
tout le temps. Et ça agace très fortement les adultes. Vous faites aussi péter les pétards, vous tapez dans un ballon. Si je vous dis garçon manqué, vous me dites ?
Ben, je vous dis que ça me plaît pas comme expression, mais réellement j'étais un garçon manqué, ce qu'on appelle un garçon manqué. J'aimerais juste trouver une autre expression, parce que moi ça me rendait dingue, ça me faisait vraiment mal quand on me traitait de garçon manqué, peut-être à cause du mot manqué, et
bien aussi sûr, parce que dès qu'on rate quelque chose.
Ouais, mais aussi parce que j'étais une fille, j'étais heureuse d'être une fille, mais juste j'avais envie de faire les mêmes jeux que. Enfin, à l'époque, je trouve les garçons ils avaient le droit à tout. Il pouvait jouer à tout. Un garçon qui faisait péter un pétard, c'était un mec rigolo. Une fille qui faisait ça, c'était forcément une dépravée. Et notamment pour siffler, moi, ce qu'on me reprochait le plus, alors pas dans ma famille, parce que moi, ils étaient super, mais en dehors de ma famille, c'est que, mais une fille ne siffle pas, quoi. C'est vulgaire.
Et puis un mercredi, il y a ce terrain vague où votre mère vous a interdit d'aller jouer parce qu'elle ne peut plus vous surveiller depuis sa fenêtre. Les arbres sont beaucoup trop grands. Mais ça, quand on est un enfant, c'est tellement, tellement tentant. Alors vous y allez, vous, votre sœur Caroline et une copine. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Alors on joue dans ce terrain vague qui est en bas des immeubles. Et puis, en fait... Il y a un homme qui arrive et on sent assez vite qu'il est bizarre parce que on est en septembre et il nous demande s'il y a des cerises sur ce cerisier. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas et on décide de partir. Et moi, comme j'étais tout en haut de l'arbre, je mets plus de temps pour en descendre. Les grandes, elles filent avec leur vélo, elles ne s'aperçoivent pas que je ne suis pas là et puis elles continuent leur vie d'enfant. Et moi, en fait, je deviens la proie de ce pédophile et il abuse de moi. Et voilà, donc je passe...
Vous écrivez, je me vide de toute sensation, je suis pétrifiée à l'intérieur d'un mur de silence et comme hors de mon corps, vous décrivez dans ce récit très précisément ce qu'on sait nommer aujourd'hui l'effet de sidération et de dissociation. Et puis tout à coup, vous trouvez en vous des ressources surhumaines, vous parvenez à hurler, vous criez au feu, comme votre mère vous l'a appris, vous parvenez à vous extirper et à foncer chez vous à vélo, votre mère vous ouvre la porte, qu'est-ce que vous lui dites ?
Eh bien, en fait, quand j'ouvre la porte, je suis en pleurs et ma mère comprend tout de suite. Je ne lui dis rien. Je lui dis rien. Et en fait, je vois dans ses yeux qu'elle comprend que c'est le drame. Et je m'écroule dans ses bras. Et en fait, il m'arrive un truc immédiat. C'est ma mère qui est si pure, si belle, qui sent si bon. Je m'éloigne, je me retire de ses bras et je lui dis « Mais ne me touche pas. Je suis sale. » Et voilà. Voilà ce qu'on fait d'un enfant de 6 ans quand on le salit.
Vous irez porter plainte avec vos parents, mais l'enquête tournera vite court. Vous n'en avez plus jamais eu de nouvelles. Par la suite, en dehors des policiers, en dehors de votre mère ce jour-là, est-ce que vous en parlez ?
J'en parle très peu parce que j'en ai d'abord tout de suite parlé à mes copines, à Nangouli d'ailleurs, du Laos, et à mes copines. Et en fait, elles ne me croient pas. Personne ne me croit parce que non, ça n'existe pas. Un adulte ne peut pas faire ça à un enfant. Et puis, je sens tout de suite que ça gêne, de toute façon. Donc, déjà, j'arrête d'en parler à mes amis. Après, autour de moi, j'ai l'impression aussi qu'il ne va pas falloir que je m'enterre dans cette histoire parce que ça met tout le monde mal à l'aise, parce que ça, je sens que ça gêne et que ce n'est pas ce qu'on attend de moi. Et aussi, j'ai entendu dire, enfant, peut-être, je ne sais pas à quelle occasion, mais j'ai entendu dire qu'un enfant... abusé, ça, il aurait du mal à vivre pleinement sa sexualité plus tard.
Et pour vous, c'est hors de question.
Et moi, je me dis, mais non, mais ça, jamais. Non.
Donc vous mettez un couvercle ?
Je mets un couvercle et surtout, je minimise, vraiment. Et je fais des blagues. Je pense que beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont connue enfant, ado et jeune adulte ne peuvent pas se douter une seconde que j'ai été moi aussi victime d'un pédophile.
C'est votre corps qui va parler à votre place ?
Alors oui, mon corps parle quand je suis enfant, c'est-à-dire c'est ma peau, ma peau me pique, j'ai des plaques de boutons qui apparaissent, surtout au niveau des cuisses, et en fait, personne met le doigt dessus, c'est-à-dire... On m'amène voir un psy qui conseille à ma mère de changer de lessive. C'est fou. Et alors.
C'est bien ce qu'on dit, hein. Quand on nous dit qu'il faut qu'elle parle, les victimes, c'est le problème, c'est pas tellement qu'elle parle pas, c'est qu'elle parle.
En tout cas, mon corps parle.
Et qu'il y a des signes évidents. Ouais. Vous quittez très brutalement l'enfance, le voile s'est déchiré, votre pouce que vous aimiez, Tété quitte définitivement votre bouche. C'est à ce moment-là que la clarinette fait irruption dans votre vie. Oui. Elle vous fait la promesse du beau quand même, du beau malgré tout. À portée de main, il est là, vous vous en saisissez. Vous réussissez à intégrer le conservatoire et vous irez désormais toutes les semaines faire de la clarinette. Au collège, vous intégrez une classe musique, cours le matin, musique l'après-midi. Vous y découvrez le bonheur de jouer, les émotions aussi que vous pouvez susciter chez les autres. Et puis vous y découvrez l'amitié, la belle, la grande.
Ouais. Alors, c'est même à partir du primaire que je vais en classe horaire aménagée musique. Donc, à partir du primaire, je me retrouve dans une classe d'enfants musiciens et on sera dans la même classe jusqu'à la fin du collège. Parce qu'après le collège, ça s'arrêtait, il n'y avait pas les classes horaires aménagées. Donc, je deviens amie, bien sûr, avec les enfants de ma classe parce qu'on n'est que des enfants qui ont... on a tous cette passion... Enfin, peut-être que pour les autres, c'était pas une passion, mais moi, je pars du principe que tout le monde était passionné de musique. Et surtout, on crée ensemble, on fait des spectacles ensemble. Et puis, là, une fille qui joue de la harpe, qui s'appelle Fred, devient mon amie.
Votre alter ego, on va la retrouver dans ce parcours. À l'époque, vous lisez et relisez Mon bel oranger, et puis moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Le livre choc de toute une génération, c'est l'adolescence face B, la plus noire, la plus dure. Oui. Sur le mur, c'est la face A, Sophie Marceau, la boum, le slow, le baiser. Les rêves sont ma réalité, mais celui qui, mieux que tous, sait vous faire chavirer, c'est Renaud, Morgane de Toi.
Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis Morgane de toi.
Je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui vous remercient.
Pas bon.
si, moi j'ai le cœur au bord des yeux là. Vous fredonnez Renaud, vous tripez sur Higelin, vous dansez sur téléphone sur l'Erita Mitsuko. Plus tard, vous aurez 4 enfants et votre mère vous aidera à les élever parce que vous serez clarinettiste à renommée internationale. Donc, pas forcément toujours là. Et pourtant, à l'époque, des femmes à la clarinette, il n'y en a pas beaucoup.
Non, il n'y a aucune femme clarinettiste dans les orchestres symphoniques en France, et pas qu'en France.
Dans votre tête, vous serez donc la première.
Non, mais surtout, je ne le remarque pas qu'il n'y a pas de femmes. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de femmes, Et puis, il y a même carrément zéro femme, tout instrument avant confondu. Et même pour les cordes, il y en a très, très peu dans les orchestres professionnels.
Vous allez l'éprouver à chaque fois, tous les jours, à chaque cours, chaque concert, en mobylette, une scie au rouge. Vous quittez la cité pour le centre-ville, son conservatoire et l'harmonie municipale. Vous avez rejoint un orchestre pour donner quelques concerts et gagner un peu d'argent. Le tout dans une atmosphère sacrément misogyne. Hein.
Oui. C'est l'harmonie municipale. C'est que des instruments à vent et à percussion. Il y a pratiquement que des hommes. Et en fait, c'est l'humour au-dessous de la ceinture. Et c'est une misogynie, mais ordinaire. Et puis, mais qui choque personne. Et ça ne me choque pas
auprès
du tout.
Auprès de gens qu'on imagine fins, délicats et cultivés. Ça donne El Mouita, ange, quoi.
Oui, parce que... Mais en fait, c'était pas des cochons, hein. Mais c'était autorisé. Ouais. Et en fait, ça faisait marrer tout le monde, puisque c'était un milieu de mecs et qu'on n'était pas beaucoup de filles. Et pour jouer de la clarinette, il faut absolument mouiller son anche, c'est-à-dire le petit bout de roseau pour avoir un joli son. Et donc, j'avais des réflexions comme « tu mouilles ton anche ». Des choses comme ça. Et surtout, moi, je ne les comprenais pas, les blagues. Parce que pour moi, ce genre de blagues, je ne voyais pas. J'avais pas l'image. Pour moi, mouiller une anche...
Comme on l'a toutes fait, vous avez donc serré les dents et vous avez ri jaune. Oui. Surtout, restez cool, surtout ne pas paraître coincé. De toute façon, vous allez bientôt les planter là, c'est Paris qui vous attend. Et à la télé, le mardi, il y a ceci. Le générique du Ciel Montmardi, évidemment, que vous regardez chaque semaine. Quelle jeune femme êtes-vous à ce moment-là ?
Alors, j'ai 18 ans, je suis à Paris, je suis extrêmement heureuse de connaître cette ville. Tout est possible, j'ai la vie devant moi et surtout, je vis mon rêve. C'est-à-dire, je suis dans la musique classique du matin au soir. Je suis au conservatoire, je suis à la Sorbonne en musicologie, je cachetonne. Cachetonner, ça veut dire faire des remplacements dans des orchestres. Donc
j'ai touché des cachets.
Voilà, je touche des
pour
cachets.
Pour ces remplacements, oui.
Et puis je donne des cours aussi. Je deviens prof de clarinette. Je suis entourée de musiciens et
vous
me régale, quoi.
Ouais, vous vous écrivez, vous vivez votre meilleure vie. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que vous avez fait du terrain vague et son souvenir à ce moment-là ?
Alors là, il est très loin.
Ouais.
Il est très très loin et. Après, très vite à Paris, il y a des choses qui me sont revenues. C'est que, je ne sais pas si c'est marqué sur mon visage, mais j'ai eu le droit à tous les exhibitionnistes de Paris. C'était pour moi, quoi. Il y avait une ou deux lignes de métro qui étaient vraiment assez propices à ça, je crois. J'avais vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'il y en avait un, c'était pour moi. Alors peut-être parce que je suis hyper vigilante, je regarde partout. Et c'est vrai que quand je voyais une main s'agiter, je regardais... En tout cas, à Paris, je reconnecte avec au moins les agressions de rue. Dans le métro, surtout dans le métro.
État d'hyper vigilance.
C'est ça.
Voilà. Certains disent que le temps ne fait rien, ou presque, à l'affaire, que les douleurs ne s'apprivoisent pas, qu'on apprend juste à les tenir en laisse.
Oiseau invisible sur la branche du figuier, on ne peut le voir, mais on l'entend chanter. Il se freine si on l'approche. Je des miettes dans mes poches, des miettes du passé que je peux lui déposer. Il y a un oiseau invisible, on ne peut le mettre en cage, ni le toucher. Le bonheur est un oiseau invisible qui se pose parfois sur le seuil, sur le seuil.
Raphaël, l'oiseau invisible. Elle vous dit quoi, cette chanson-là, Morgane Raoult ?
Alors, elle me dit que j'ai entendu Raphaël en parler. Et d'abord, elle est très belle. Et il chante avec son enfant. Et il a dit, en parlant de cette chanson, « Je suis restée fidèle à l'enfant que j'étais ». Et ça m'a vraiment touchée, parce que je c'est exactement ce que je ressens, moi. J'ai l'impression que je suis vraiment très fidèle à la petite Morgane. J'ai l'impression de ne jamais avoir triché, de ne l'avoir jamais abandonnée.
Et de la consoler, parfois.
Ouais, et je crois que ça y est, je l'ai consolée, mais j'ai mis longtemps à la consoler. Mais je crois que, voilà, je crois que je l'ai consolée.
En musique, au son de la clarinette, on s'échappe en marge ce soir parce que l'intime est toujours politique. C'est votre récit dont on se saisit. Je ne souffle pas, je chante, c'est son titre. Et j'ajouterai, j'ai aimé, j'ai joué, j'ai ri, je ne souffre plus, je vis.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Puccini, Tosca et Lucia Van Lestel, vous avez 20 ans, vous jouez, vous et beaucoup, dans de grands orchestres, votre carrière d'école, vous partez en tournée, vous n'avez pas encore 4 enfants, ça vous n'avez pas commencé, mais votre renommée internationale semble se profiler. C'est quoi l'envers du décor, c'est quoi l'ambiance d'un orchestre ?
Alors, c'est d'abord de la pression tous les soirs, parce qu'on joue, surtout quand on est instrumentiste avant, on joue pas dans un ensemble de comme les violonistes jouent, ils sont 10 ou 15 à jouer la même chose. Les clarinettistes, les trompettistes, chaque clarinettiste, quand il joue, il est tout seul, il a pas son collègue qui vient en renfort. Donc on est tous solistes. Et on doit être très attentif, parce que il y a des moments où on joue, des moments où on ne joue pas, mais quand on joue, faut que ce soit au bon endroit, faut que ce soit dans la bonne aussi la bonne émotion. Et parfois, on peut se laisser emporter par la beauté de la musique et oublier de démarrer. C'est très rare que ça arrive. Et parfois aussi, on peut déraper. C'est-à-dire, on a ça s'appelle des traits d'orchestre. C'est-à-dire, on joue des solos qui sont parfois très véloces, comme un gymnaste qui enchaînerait un flip arrière, un double salto, et puis qui doit arriver sur ses pieds. Et ben, en musique, ça s'appelle des traits d'orchestre. Donc, ça tricote. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit en place. Et en plus, les clarinettistes, il faut pas qu'on fasse de canard. C'est-à-dire, il faut pas qu'il y ait un petit couic. Voilà. Et donc tout ça, ça met quand même vachement l'adrénaline bien haut, quoi.
Et le fait d'être une femme, est-ce que vous diriez l'harmonie municipale et les grands orchestres, même combat ?
Alors, pas tout à fait, parce que quand même, dans les grands orchestres, il y a quand même un peu plus de cordes. Et donc dans les cordes, du coup, il y a un peu plus de femmes. Et puis, sociologiquement, on s'attend aussi à ce que ceux qui jouent du violon, des instruments à cordes, viennent d'un milieu un petit peu plus préparé à la finesse.
Le sexisme, il frappe à tous
et
les
alors,
étages.
C'est ça qui est dingue, c'est que finalement, ils sont pas vulgaires, mais alors le sexisme est là à mort, quoi.
C'est-à-dire que c'est plus ourlé, c'est plus ouaté.
C'est plus élégant.
Mais c'est là.
C'est plus, mais c'est là. Et finalement.
C'est aussi violent, quoi.
Ouais. Et je crois que je préférais les blagues bien graveleuses, parce que au moins, c'était cash.
C'est franc. Ouais.
Voilà.
Quand vous posez la clarinette, vous êtes en couple avec Vincent et vous êtes amoureuse, très amoureuse. Il vous a demandé en mariage, dites donc. Pour rentrer de tournée, vous le trouvez changé, distant. Un mois plus tard, vous le gaulez, il vous trompe, vous le quittez. Une fois encore, la clarinette va vous sauver, vous bossez comme une acharnée. Et un jour, en répétition, à 25 ans, vous vous effondrez. Pourquoi ?
Alors, je m'effondre parce que je ne comprends pas. D'un coup, j'ai une douleur d'une violence extrême dans la poitrine, à gauche. Tellement forte que j'en tombe. Et je me dis, mais ça doit être ça, une crise cardiaque. Et en fait, non, parce que je vois bien que je continue à vivre. Et surtout, je sens quelque chose se déchirer, mais vraiment quelque chose qui se déchire. Et une douleur, mais extrême. Et on m'amène à l'hôpital.
C'est Fred, votre ami de toujours, qui vous emmène à l'hôpital. Verdict ?
Verdict, pneumothorax, ça veut dire un décollement complet de la plèvre. Là, c'était le poumon gauche. Mon poumon se décroche entièrement de la paroi. Je suis hospitalisée et je reste avec un drain à l'hôpital pour replacer le poumon gauche. Donc on me le replace, c'est-à-dire je ressors de l'hôpital, j'ai les deux poumons qui fonctionnent. Mais on me dit, attention, vous avez une épée de Damoclès, parce que le gauche, il est super fragilisé, et le droit, ben, il peut lâcher un jour aussi. Voilà. Donc on me dit, plus de clarinette. Et plus de plongée sous-marine non plus. Ça tombe bien, j'en faisais pas.
Ouais, sauf que vous partez au Brésil, vous prenez le large, vous avez retrouvé vos parents, votre père a été muté là-bas, vous prenez le soleil, vous prenez la mer, vous prenez tout ce que la vie peut vous offrir en dehors de la clarinette, et là, en pleine mer. Deuxième épisode,
je m'y attendais vraiment pas, il n'y avait aucune raison, à part que j'étais chahutée par les vagues. Elles sont grosses, les vagues à Rio de Janeiro. Hein. Et donc, je sens une douleur de nouveau, mais cette fois dans la poitrine à droite. Et verdict, ben là je comprends tout de suite, même pas besoin du verdict, mon poumon droit lâche à son tour.
Alors vous serez opérée, moyennant 30 000 euros.
Oui, 30 000 dollars. Ouais,
30 000 dollars, pardon. Ouais. Vous serez opérée. Mais là, la clarinette, vraiment, il faut oublier. Retour à Paris, les nuits sont courtes, les journées beaucoup trop longues. Vous carburez au Lexomil et doucement, vous glissez. Fred, encore elle, vous rattrape par le callback, vous pousse à reprendre vos études de musicologie et un soir, décide de vous emmener à un concert de musique yiddish. Qu'est-ce que vous comprenez ce soir-là ?
Déjà, je vois un homme, donc un clarinettiste, arriver, très vieux. Je me souviens, il a une longue barbe blanche. Et il a une canne dans une main et sa clarinette dans l'autre. Ça veut dire qu'il tient à peine debout. Et il s'avance et il joue du bout de son souffle un morceau yiddish. Mais j'entends une voix, en fait. J'entends la voix humaine. Sa clarinette sonne comme une voix humaine, c'est exactement ce qu'on entend là tout de suite, et c'est magnifique parce que je me dis, mais si lui, si fragile, si vieux, il doit avoir des tout petits poumons à cet âge-là, je sais pas d'ailleurs si des poumons rétrécissent en vieillissant, et je me dis, mais si lui il y arrive, ben moi je vais y arriver, et à la fin du concert, je le connais pas, je débarque dans sa loge, je l'embrasse, le pauvre, il avait peut-être pas envie, puis il avait l'air content quand même. Et je lui dis, mais comment vous faites ? Et il me regarde, un petit sourire, et il me dit, je ne souffle pas, je chante. Et en fait, bien sûr, c'est une image. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il envoie autant d'air dans sa clarinette, enfin pas plus, que s'il chantait. Et donc je rentre chez moi, je mets un matériel le plus faible possible, l'anche en question dont je parlais tout à l'heure, j'en choisis une très 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 fine, même je la rabote pour qu'elle soit la plus facile à souffler. Je souffle du bout des lèvres dans ma clarinette, mais tout doucement, et ça sonne. Et ça me fait pas mal, surtout ça me fait pas mal, parce que j'avais réessayé, mais ça me faisait tellement mal.
Cette clarinette qui vous avait fait tant de bien se mettait à vous faire du mal, c'est ça le plus terrible, c'est-à-dire que tout à coup, ce qui vous avait sauvé la vie devenait ce qui pouvait vous tuer, et qui en attendant vous faisait sentir des douleurs que vous n'auriez pas pu imaginer. À ce moment-là, vous dites que concertiste de haut niveau, c'est fini, mais que la clarinette, de nouveau, vous allez pouvoir en jouer, la musique revient doucement dans votre vie, à la faveur d'une certaine Capucine,
Ouais.
Je crois, votre fille.
Ouais, parce que j'ai été, en fait, la vie reprend le dessus. J'ai été submergée par cet amour qui me tombait dessus, et j'ai eu envie de lui chanter des chansons, mais mes chansons. Et donc j'ai découvert que j'aimais écrire des chansons pour mon bébé. Au début, c'était pour bébé, puis après, elle a grandi, donc c'était pour enfants.
5 ans plus tard, viendra Léonard, et avec eux deux, une nouvelle vie. Vous plongez dans la musique pour enfants, ce sont des ateliers d'éveil dans les classes et jusqu'au Sénégal. Une quinzaine de livres, albums, des concerts, évidemment. Ce nouveau public que vous rencontrez, qu'est-ce qui vous apprend? En quoi est-ce qui vous nourrit?
Alors, déjà, les enfants, ils trichent pas, ils sont nature, et donc je ne triche pas non plus. Je leur offre la musique que j'aime et on le partage.
Alors peu à peu l'étau se desserre, le souffle revient, celui de la liberté, celui de l'imaginaire. Vous vous autorisez à écrire, à dire et parfois même à chanter ce que vous ne pouviez pas oublier.
Un matin en sortant de l'école, un monsieur me tape sur l'épaule. Et petite, si tu aimes les bonbons, viens vers moi, j'en ai dans mon blouson. Je me retourne, je l'attrape par le col. Je lui dis, je pense que tu rigoles. Bats les pattes ou sans hésitation. De mon poing, j'arrache ta dentition. Et je me suis mise à crier, à hurler, à vociférer. J'ai beuglé, j'ai mis et braillé. J'ai gueulé, à mégosillé. J'ai refusé, j'ai protesté. J'ai tempesté, j'ai dénoncé. Je me suis fâchée à en pleurer. Lui s'est enfui, il s'est sauvé.
Vous l'avez écrite pour vos enfants avant tout, cette chanson?
Ouais. Je l'ai écrite.
Une façon de leur dire?
Oui, c'était une façon d'aborder le sujet avec eux, avec les enfants que j'aime. Et aussi une façon, l'envie de dire, et si c'était... Les enfants qui se mettaient à foutre la trouille aux pédophiles seraient tellement géniales. En fait, je l'ai écrite un peu comme une petite fille qui se prendrait pour un super-héros, parce qu'en fait, on a le droit de s'identifier aussi à un enfant qui sait envoyer chier un adulte quand il le faut, quoi. Mais après, c'est quelque chose que j'ai chanté souvent en concert et j'ai eu des retours tellement forts avec cette chanson de parents qui m'ont dit mais merci, parce qu'en fait je savais pas trop comment parler à mes enfants de ça comme c'est pas abordé d'une façon tragique ni lourde. En revanche, j'ai eu une ou deux fois des hommes qui m'ont dit « Oh, mais elle est violente, votre chanson !»
C'est terrible, ça. C'est-à-dire que ce qui est violent, c'est d'en parler, et c'est pas la violence elle-même.
Et je me suis dit mais ils renversent, la violence, c'est pas ça, c'est ce qu'on fait aux enfants.
On dit qu'il n'y a rien de plus fort qu'une femme qu'on a voulu mettre à terre et qui s'est relevée. Je pense que vous le prouvez encore une fois ce soir, Morgane Raoult. À la technique, Vincent Godard, à la réalisation, Lucie Lemarchand, Ophélie Vivier chargée de programmation, et ça, c'est Blic Bassi, Bandit sur France Inter. Comme tous les samedis, c'est Djoubaka qui signe la programmation musicale de notre émission. Vous en retrouverez toutes les références sur le site de Radio France, exactement à l'endroit où vous pourrez nous podcaster.
En marge. Sur France Inter.
Je fais souvent des cauchemars. Mes parents appellent ça la maladie des cauchemars. Le soir, ma mère vient dans ma chambre. Elle s'assoit sur mon lit et elle me chante très doucement. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, je l'écoute en m'endormant. Elle a une belle voix de maman.
Une belle voix de maman, j'adore cette expression. L'écriture, ça fait grandir aussi. Écrire, dire,
ouais,
parler.
Oui, ouais, ça fait grandir. Ouais.
Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis la création de ce spectacle et depuis l'écriture du livre ?
Alors, l'écriture, je ne sais pas, parce que c'était quelque chose d'intime. Mais alors, ça m'a fait du bien, ça c'est sûr. Mais alors, l'étape d'après, c'est la pièce, de le jouer devant, de partager et d'être en communion avec, bah, avec le public, puis aussi avec mon partenaire. J'ai un comédien fabuleux avec moi sur scène.
Qui est ?
Alors, c'est Nicolas Venceschi, et puis j'ai aussi Bertrand Saunier, parce que moi, il m'en faut deux. Non, en alternance, parce que ouais. Nicolas tourne beaucoup, et Bertrand est souvent tourné aussi, et donc il en fallait deux. Et donc, c'est formidable, parce que je partage, j'ai une écoute, je suis entendue. C'est-à-dire, je suis pas que écoutée, je suis entendue, ça se voit. Et à la sortie, je reçois... moi, j'appelle ça de l'amour, alors c'est peut-être de l'affection, mais je reçois énormément de la part des spectateurs. Et puis, quand à la sortie, on me dit « vous m'avez donné envie de parler à mes enfants », ou quand on me dit « je crois que je vais reprendre mes pinceaux ». Parce que la pièce, j'espère qu'elle donne envie de reprendre une activité artistique. Alors, moi, c'était la musique. Pour d'autres, c'est la peinture, le théâtre, la danse. Mais j'ai l'impression que cette pièce, elle me fait du bien, ça c'est sûr, mais qu'elle fait aussi du bien.
Mais ça qui est formidable, je trouve, avec Me Too, c'est qu'une parole en entraîne une autre et que les unes après les autres, on se cède à se remettre debout. Ouais. C'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez que la petite fille que vous étiez, vous l'aviez consolée. Est-ce que ce livre, est-ce que ce spectacle l'ont consolée ?
Oui. Alors, je l'ai consolée parce que j'ai osé la faire vivre. J'ai osé dire publiquement ce qui m'était arrivé. Donc, ça veut dire que j'ai plus honte d'elle. J'ai plus honte de moi. Je me sens plus sale du tout. Et c'est l'autre qui est sale. C'est l'autre qui est le dégueu, qui est dégueulasse. Et aussi parce que la musique, la beauté de la musique... est plus forte que tout. Et donc cette pièce parle beaucoup de musique, et je parle de musique, et il y a de la musique dans la pièce, et voilà.
Et avec vous, de toute façon, la musique, il y en a toujours et pour l'éternité, du violoncelle et du bac pour vous accompagner. Suite pour violoncelle de Bach, elle vous raconte quoi pour le coup ?
Alors, Bach déjà me raconte beaucoup, c'est le compositeur, je pense, qui me nourrit le plus. Et j'ai beau écouter et réécouter les mêmes œuvres, je les découvre à chaque fois. C'est éternel, c'est... le violoncelle, c'est pour moi l'instrument à cordes qui se rapproche peut-être le plus du timbre de la clarinette. Mmh. Et comme Bach n'a pas écrit pour la clarinette, pas de chance. Ça n'existait pas encore sous cette forme, la clarinette, à l'époque de Bach. Donc, mais parce que bien sûr, s'il avait connu le timbre de cet instrument, il aurait écrit pour nous. Donc j'ai une petite frustration de ne pas pouvoir jouer du Bach. Enfin, je me gêne pas, je joue du Bach à la clarinette, mais du coup, je préfère quand même prendre la base et l'écouter au violoncelle. Voilà.
Bach pour l'éternité, on le disait.
Pour l'éternité, oui.
Et comme objet, l'objet qui ne vous quittera jamais, alors, il est posé là,
l'objet
dans une petite valise noire.
Qui ne quittera jamais, c'est ma clarinette que j'ai tout le temps avec moi. Voilà.
Prenez-la, je vous en prie. Alors, vous pouvez l'ouvrir, on a tout notre temps.
D'accord.
Et on prend tous les sons, tout ce qui vous raconte.
Alors j'ouvre la boîte et puis je vais la monter.
Ouais.
Voilà, là je l'ouvre. Parce que la clarinette, elle est en plusieurs morceaux pour pouvoir mieux la transporter. Donc je l'assemble. Et puis...
Déjà, est-ce que vous pourriez faire des yeux fermés,
j'imagine ? Oui, je peux les faire les yeux fermés. Le seul truc que je ne peux pas faire les yeux fermés, c'est d'ajuster mon hanche. Parce que donc, cette petite lame de bois qui vibre quand on joue... La fameuse hanche. Il faut la mouiller, il faut la placer. Ah. Je pose mon hanche sur ma clarinette. Et j'espère que le son sera beau, parce que dans ce studio, le son est très mat.
Merci infiniment, Morgane Raoult, d'être passée par ce studio avec votre clarinette. Votre pièce Second Souffle se joue à Paris les 15 et 29 mai au Théâtre Le Funambule Montmartre, à Bruxelles le 31 mai à l'Escale du Nord d'Anderlecht. Votre livre en librairie Je ne souffle pas, je chante est aux éditions Michalon. Votre conte musical pour enfants, L'enfant de l'orchestre, livre-disque édité chez Nathan, se trouve également en librairie et sur toutes les plateformes. Je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on est bon, même si on pourrait continuer à parler des heures. Il va falloir qu'on se quitte. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.